RCF. Et la joie qui se partage bien entendu sur RCF, 18h10, le 18-19 en région. Nous accueillons Jean-Pierre Benoît et Alexis Claudretz.
Bonsoir à tous, nous sommes en direct pour le 18-19, 18h10, 19h, c'est en direct avec RCF Cœur de Champagne, RCF Reims-Ardennes. Bonsoir Alexis.
Bonsoir Jean-Pierre, bonsoir à toutes et à tous. Une émission qui a une connotation tout à fait exceptionnelle ce soir, Jean-Pierre. Avec Monseigneur François Touvet en deuxième partie de l'émission.
Ah bien sûr, Monseigneur François Touvet. Non, je ne l'avais pas oublié. Mais je pensais que cette émission exceptionnelle était due à la présence de Gérard-Marie Henry dans un premier temps, qui est notre invité du jeudi.
Bonjour tout le monde.
Et dans le cadre du Radio Don, on n'aura pas de chronique témoignage ce soir, puisque toute la deuxième partie d'émission sera donc avec Monseigneur François Touvet, qui a récemment quitté le diocèse de Chalon pour le diocèse de Fréjus-Toulon. Il sera interrogé par Loïc Marc. François Touvet sera depuis
et
le studio.
Et Christopher Fausten, je pense aussi. Ah oui, oui.
À ma connaissance, il y a Loïc Marc.
Ah d'accord, d'accord.
C'est parce que c'est un numéro d'Episcorama proposé par RCF Cœur de Champagne, Jean-Pierre. Je vous laisserai écouter tout cela, mais de ce que j'ai entendu de la préparation de l'émission, je pense que c'est Loïc qui est aux manettes, Jean-Pierre.
Nous allons l'entendre avec beaucoup d'intérêt, bien évidemment.
Et donc j'étais en train de dire, puisque nous n'aurons pas de chronique témoignage de nos auditeurs donateurs dans cette deuxième partie d'émission, on parlera quand même du Radio Don, mais de manière différente ce soir avec Gérard-Marie Henry que vous présentiez, puisqu'on va s'intéresser, Gérard, à l'économie du don d'ici quelques secondes.
À l'économie du don.
Est-ce que les Français sont généreux en petits?
Non, ils sont vraiment 80e dans les classements internationaux.
On n'est pas très bons élèves, mais sur RCF, on peut compter sur des auditeurs fidèles et des donateurs fidèles. C'est bien là le plus important. 18h20, Jean-Pierre, dans une dizaine de minutes, il y aura un rendez-vous avec un maire qui vous parle.
Bien sûr, un maire qui nous parle. Alors aujourd'hui, évidemment, ça change tous les jours, Alexis.
Évidemment.
C'est Gérard... Pardon, le maire.
Bah, Gérard-Marie Henry n'est pas encore maire. Peut-être un jour le Trémillec en Bretagne.
Vous allez bientôt l'être, Gérard-Marie, parce que on va vous propulser avec une campagne électorale conduite par Alexis et moi-même qui serai derrière avec mon petit magnéto. Mais pour l'instant, c'est Daniel Colas, le maire de La Lobe, dans le département des Ardennes.
On le retrouvera tout à l'heure. 18h13, voilà pour le sommaire de cette émission. Jean-Pierre, on vous sent sur le qui-vive aujourd'hui.
Eh bien, c'est-à-dire, j'ai un peu
interverti. C'est la joie d'avoir retrouvé le terrain aussi.
La joie qui se partage. Je suis allé sur le terrain, ça m'a fatigué. Mais c'est très bien. J'étais très content, ça m'a rajeuni.
Bon, ça, c'est une très bonne nouvelle. Allez, nous sommes avec Gérard-Marie Henry pour ouvrir le bal ce jeudi soir. Gérard-Marie, bonjour.
Bonjour à tous.
L'économie du don, c'est le sujet qu'on a choisi en cette période de Radio Don sur RCF. Si l'on fait une photographie déjà de ce que ça représente d'une manière globale, générale, Gérard-Marie Henry, que faut-il en retenir?
Beaucoup d'associations, beaucoup de gens qui sont bénévoles. Je crois que d'après les chiffres qu'on a, 18 millions de Français participent à des associations qui auraient un budget total de l'ordre de 100 milliards d'euros, c'est-à-dire pratiquement plus que l'artisanat, même si on n'en parle pas beaucoup. Donc déjà quelque chose qui est significatif.
Le don, il varie, il a plusieurs façons de faire. On a ce qu'on appelle le don bureaucratique, ça veut dire un don qui est géré par des professionnels avec certaines procédures un petit peu particulières, administrativement parlant, on va dire, et le don participatif, c'est le don où les donateurs sont intégrés au dispositif et où la bureaucratie est limitée.
Voilà, donc par exemple, les personnes qui donnent un petit peu d'argent à RCF, c'est dans la deuxième catégorie, hein. Ils sont... contactés, ils vont accepter de chaque année de donner une petite somme d'argent. Et malheureusement, ces sommes d'argent, en fait, dans le budget total des associations, toujours d'après les chiffres que j'ai trouvés, ça ne représente que 7% de l'ensemble des...
C'est assez peu.
C'est assez peu. Et c'est donc la comparaison internationale qui montre que les Français donnent peu. Mais pourquoi donnent-ils peu? Parce que il y a beaucoup de prélèvements sociaux en France. On a un système de protection, etc. Donc pas mal de gens disent, j'ai déjà donné, en fait, hein, par mes impôts, j'ai déjà donné. Donc si on me redemande, je ne vais pas être aussi généreux qu'on le serait dans un pays, par exemple, nordique. Et on retrouve quelque chose qui est assez intéressant. Il y a une relation inverse, on vient de dire, entre le taux d'imposition et la générosité, les dons. De la même façon, il y a une relation entre le taux d'imposition et le travail au noir. Les pays dans lesquels il n'y a pas beaucoup d'impôts, comme les pays nordiques, il n'y a pas beaucoup de travail au noir. Et on retrouve un peu le cas dans la France, où inversement, il y a beaucoup de gens qui, parce qu'il y a la TVA importante, disent « je vais travailler au noir.
Et on aura l'occasion d'ici quelques minutes de développer cette économie du don avec un exemple bien précis dans une station RCF voisine du côté de la Bourgogne notamment, Gérard-Marie Henry. Sur RCF en Sardaigne, on a donné quelques chiffres en début de semaine avec nous Geneviève Loison, notre trésorière, avec François Mourat qui était président ici. Mais puisque vous parlez du don, nous avec vous Gérard-Marie, dans cette question d'économie, on parle du don économique. Mais c'est aussi le moment de vous remercier, vous, mais comme on a envie de remercier l'ensemble de nos producteurs sur RCF et de nos bénévoles qui font l'accueil, etc., pour le don en temps. Parce que le temps que vous passez à préparer ces chroniques, vous, Gérard-Marie Henry, mais comme on pense à Jean-François Boulanger, à Jacques Cohen, à Claude Ruiz, à Robert Reverger, à tous nos producteurs qui présentent nos émissions parmi les 4 heures de programmes locaux, à nos bénévoles d'accueil, Jean-Pierre, à toutes les personnes qui sont mobilisées ici, c'est l'occasion de vous remercier pour ce don en temps que ne compte pas là dans l'énergie, dans cette économie-là, mais qui est très important, et ça, ça nous est précieux. Gérard-Marie Henry, on était donc en train de dire le don en argent. On a un cas très précis avec un témoignage du côté de RCF Bourgogne, à RCF Parabole à Dijon.
Oui, alors donc c'est RCF un peu comme à Reims, et ils ont donné quelques chiffres qui sont intéressants. En fait, bon, les radios locales, vous le savez, bénéficient de subventions d'État, mais comme elles sont de plus en plus nombreuses, bah, ces subventions n'augmentent pas. Donc il faut trouver un petit peu d'argent ailleurs. Donc dans les chiffres que j'avais collectés sur cette radio RCF, il y avait à peu près 40% du budget qui arrivait sous forme de subventions.
Un budget annuel de 220 000 euros.
Oui, donc c'est-à-dire un petit budget qui permet d'avoir deux ou trois, je crois c'était trois salariés seulement. Ça va pas très loin. Et il faut donc compléter ces subventions que l'État donne pour la diffusion radiophonique. Il faut arriver à trouver des compléments.
Alors ça veut dire que pour les stations RCF, nous qui vivons, parce que RCF en Bourgogne vit comme RCF en Champagne, que ce soit RCF Cœur de Champagne, RCF Reims-Ardennes, nous à RCF, on a les dons, mais on est obligé de trouver d'autres solutions, et notamment s'ouvrir davantage à la publicité.
Voilà, et donc c'est un peu ça le problème qui est contradictoire, c'est-à-dire une radio associative, on se dit, c'est une radio qui n'est pas marchande, et elle va quand même être obligée de faire appel à une démarche qui est marchande, c'est-à-dire vendre des espaces publicitaires, alors évidemment de façon plus discrète qu'une radio normale, mais on est obligé de le faire parce que effectivement on a cette contrainte budgétaire, des subventions qui sont quand même faibles, on va dire, par rapport à l'activité, hein, au nombre d'heures de production, etc. Et puis un don direct des auditeurs qui lui aussi est relativement faible dans cette radio RCF Bourgogne. Hein, je crois que c'est moins de 10% qui est du budget total qui vient directement des auditeurs, c'est-à-dire pas beaucoup.
Je me permets, Gérard-Marie Henry, de faire intervenir le président, le directeur de RCF Reims-Ardennes, Jean-Pierre Benoît, qui est là. Jean-Pierre Benoît, hier, on vous a entendu sur les ondes de RCF au niveau national. Mmh. Vous l'avez dit sans honte, on a besoin de 20 000 euros, nous, cette année, pour boucler le budget, pour faire quelques travaux.
Absolument, on a dit 20 000 euros. Alors nous, bien entendu, on encourage les auditeurs à donner, mais c'est vrai que nos auditeurs de Reims-Ardennes sont plus généreux que ceux de Bourgogne, oui. Puisque en taux, actuellement, on a pratiquement 100 000 euros de dons. Des auditeurs, donc c'est beaucoup plus que les 10% que vous avez cités.
D'accord.
Mais ça dépend, effectivement, on a des généreux donateurs et on encourage à ce qu'ils continuent de le faire.
Oui, alors justement, souvent dans cette démarche, hein, les associations font appel directement à des entreprises. Ce sont pas des donateurs.
C'est plutôt du mécénat.
Voilà, tout à fait. C'est pas du donateur individuel.
Bien sûr.
Ça va être une entreprise qui devient partenaire de la radio, de l'association, et qui va l'aider. Alors, pas forcément sous forme monétaire, hein, ça peut être en faisant autre chose que...
En rénovant les studios, par exemple.
Voilà, en offrant du matériel, en fournissant des techniciens, enfin, il peut y avoir plein de cas de figure, mais donc là, c'est une autre démarche qui consiste à toucher directement des personnes. Il s'agit de structures qui vont rentrer en adhésion avec l'association.
Mais généralement, Gérard-Marie Henry, les structures associatives, qu'elles soient, là on donne l'exemple de la radio parce qu'on est en plein dedans, ça concerne nos auditeurs plus particulièrement, mais toutes les structures associatives, elles sont quand même à minima accompagnées par les collectivités locales et aussi parfois par l'État. Qu'en est-il ?
Ah ben donc c'est à peu près le budget dont on parle, hein, c'est-à-dire entre 30 et 40% des 100 milliards d'euros sont donnés par des structures qui peuvent être directement l'État, dans le cas de la diffusion radiophonique, qui peuvent être des collectivités locales, des communes, etc., qui vont participer à cet effort associatif.
Alors il faut dire que dans le diocèse de Reims, comme dans de nombreux diocèses, pour équilibrer le budget, c'est le diocèse de Reims qui fournit, j'allais dire, une subvention qui s'ajoute.
Tout à fait. Tout à fait.
Il y a à peu près 40 000 ou 48 000 euros de la part du fonds de soutien à l'expression radiophonique,
voilà.
Sur les 250 000, 48 000, et 100 000 de dons. Et évidemment quelques sponsors, 20 000 ou 30 000, et puis le reste,
c'est le diocèse
qui fait la jointure.
D'accord.
On joue la carte de la transparence sur RCF France-Ardenne aujourd'hui. Et c'est l'occasion aussi de dire que la semaine prochaine, nos auditeurs, à la place du 3 questions à 7h40, dans le cadre de ces partenariats de financement, entendront des chroniques régionales proposées par la FRACA, la Fédération des radios associatives de la Champagne-Ardenne. Et donc, à 7h40, nos auditeurs seront accompagnés par des chroniques qui nous emmèneront notamment dans l'internat et puis aussi dans le monde médical et dans le monde sociétal de manière générale tout au long des prochaines semaines jusqu'aux vacances de Noël. C'est une proposition aussi qui permet d'accompagner RCF financièrement comme d'autres radios associatives du territoire.
Alors moi je suis un petit peu triste parce que à 7h40 je vais plus retrouver Alexis Claudrette.
Non mais vous retrouverez des gens très bien, Jean-Pierre, qui vous proposeront des initiatives très intéressantes en région et ça permettra d'ouvrir nos auditeurs à d'autres horizons et on sait que sur RCF ils aiment s'ouvrir à de nouvelles choses donc ça fera de très belles découvertes et moi j'aurai le plaisir à les retrouver et à vous retrouver aussi Jean-Pierre à 7h40 à partir du mois de janvier 2024. C'est vous dire si c'est loin mais promis on est en train de préparer là aussi des sujets assez sympas. D'ores et déjà on pense au mois de janvier 2024 Jean-Pierre. Gérard-Marie-Henri, merci d'avoir préparé, d'avoir bossé studieusement, on le disait, c'est le don de temps pour vous les producteurs bénévoles ici, ce dossier de l'économie du don et puis on vous dit à très bientôt, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Le 18-19 sur RCF.
À 18h21 sur RCF, un maire qui nous parle, comme tous les soirs à cette heure-ci. Aujourd'hui, c'est Daniel Colas, le maire de Lalob, qui est avec Jean-Pierre.
Daniel Colas, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre.
Merci d'être avec nous. Alors, pouvez-vous nous présenter, Daniel Colas, qui est le maire de la commune, nous présenter Lalob, dans le département des Ardennes. Combien d'habitants? C'est où? C'est pas très loin de Signy-l'Abbaye? Enfin, c'est où, Daniel Colas?
Lalob, commune des Crêtes préardennaises, avec aux environs 900 hectares. Entouré sur ses trois quarts par la forêt de Signy-l'Abbaye, réputé depuis plusieurs siècles pour le titrage en alcool de ses pommes. Dans les années 1900, il y avait à Paris un bistrot qui avait comme nom au cidre de Lalob. Notre village compte aux environs 180 habitants. C'est un village plutôt ouvrier. Il y a eu jusqu'en 1923 une filature détruite par un incendie. C'est une ferronnerie qui a repris la place. Elle produisait sa propre électricité grâce à une turbine alimentée par la rivière Lavaux. C'est en 1965 qu'elle cessa son activité qui fut recentrée sur la maison mère à Charleville. Mais depuis, nous avons la chance pour une petite commune de campagne, d'avoir deux petites usines. L'une travaille le fer, l'autre l'alu. Elle a une réputation nationale et même internationale. À elle deux, elles emploient environ 50 salariés.
C'est quand même bien dans une commune, monsieur le maire. Là, vous avez quand même de la vitalité avec ces usines qui sont là. Il y a de l'animation, ils viennent travailler.
Oui,
il y a des gens qui partent, qui reviennent. Enfin, là,
rien qu'au niveau des transports. Il y a je ne sais combien de camions qui passent par jour, rien que pour ça.
Alors, simplement, Daniel Colas, bon, on va revenir sur la commune, mais vous-même, vous êtes maire depuis quelques années déjà, je crois. Hein.
Je suis membre du conseil municipal depuis 1977 et maire depuis 2008.
Alors, vous connaissez tout le monde, évidemment, à Lalob. Vous avez toujours été intéressé par, cet esprit de service, rendre service aux habitants. C'est dans cet esprit que vous êtes aujourd'hui maire de Lalob, avec un conseil municipal, évidemment.
Je n'avais pas du tout l'intention d'être maire. Les choses ont fait que on me l'a proposé, mais avant d'accepter, j'en ai parlé déjà avec toute ma famille, et même avec un prêtre. Et j'ai mis ma mission de baptiser au service des autres.
Oui, ça veut dire que vraiment là, monsieur le maire, vous impliquez même au niveau de votre démarche personnelle. Là, hein. C'est vraiment,
oui.
Oui, ça c'est formidable. Hein. Et alors, si on continue un petit peu, donc vos habitants aujourd'hui, bon, il y a beaucoup de retraités, il y a quelques agriculteurs, il y a quelques jeunes peut-être aussi. En gros, hein, si on n'a pas forcément tous les détails. Hein.
Au niveau personnes de plus de 65 ans, il y en a un grand nombre. Ce qui pêche fortement, c'est les 15-25 ans. Là, on a un trou énorme dans la commune. Depuis quelques années, on a eu des naissances qui, je l'espère, vont...
Ça va un petit peu augmenter. Les 15-25, les très jeunes d'aujourd'hui, c'est les 15-25 de demain.
Est-ce qu'ils resteront sur le secteur?
C'est toute la question. Évidemment, il y a une question qu'on pose souvent, c'est à propos des communautés de communes, des regroupements, qui ont modifié sans doute le rôle des maires. Mais tout de même, le maire reste quand même un personnage dans une commune. Le maire, ça reste le maire quand même, même si les compétences ont changé, Daniel Collin.
Oui, les compétences, elles ont changé, mais les communautés de communes, il faut savoir s'en servir. Nous, on a... Avec la communauté de communes, on a réalisé beaucoup de choses. Une partie de l'enfouissement des réseaux au niveau de l'église, de la place. On a fait des logements communaux. On a justement évolué grâce à eux. On a fait les bâtiments communaux avec eux, justement en collaboration. Eux prenant les logements à leur charge, nous, on a refait tout le reste de l'ensemble. Cette année-là, on avait quand même pour 500 000 euros de travaux.
Oui, ça veut dire quand même, je vous interromps, Daniel Collas, ça veut dire que quand même, le maire reste entre guillemets le patron de la commune, mais il peut quand même s'appuyer sur les communautés de communes pour faire des travaux qu'il ne pourrait pas faire avec ses propres deniers, avec ses propres finances.
Faut aller chercher l'argent où il est. Certaines personnes avaient déjà dit à mon prédécesseur qu'on était chasseurs de primes.
Ah bah oui, mais c'est un peu vrai quand même, les maires doivent aller chercher l'argent où il est.
Voilà, c'est ça. Bon, maintenant ça devient de plus en plus difficile.
Oui, peut-être, oui. Alors j'ai envie, parce que le temps passe très vite, Daniel Collas, vous savez, ça va à une vitesse folle. Vos administrés, vous les connaissez bien, alors il y a toujours des tempéraments, des gens qui vous pètent, des gens qui sont contents, c'est dans toutes les communes qu'on interroge, c'est la même chose. Mais on vous demande un certain nombre de choses, est-ce que vous avez des projets en cours ou qui vont avoir lieu dans les prochains mois, les prochaines années, ou qui sont en cours de réalisation, un projet ou quelque chose?
On a des projets, parce qu'il faut toujours en avoir. Là, on a un projet, mais il faut dire, pour monter un dossier maintenant, il faut 3 ans, parce qu'on arrive à ses fins.
Oui.
Là, on a un projet, c'est de réhabiliter un terrain de jeu, et puis un terrain de pétanque.
Ça, c'est bien, ça.
Avec différents jeux pour enfants.
Ça va plaire, ça.
Il existait, mais il était vétuste, donc on essaye de...
Refaire.
De refaire. Mais bon, ça fait 3 ans qu'on est en route de monter pour avoir des fonds européens et tout ça pour arriver à...
Bien sûr.
À financer, parce que c'est pas nous, petites communes, qui arriverons à faire ça. On a un autre projet aussi, c'est dans le village, on a 2 rues séparées par un grand talus, alors c'est de l'embellir, de refaire différentes choses dedans.
Alors, pour terminer, parce que ça termine, Daniel Collas, il y a souvent une question. Alors vous m'avez dit en micro l'autre jour que vous étiez en retraite, mais c'est vrai que pour beaucoup de maires qu'on interroge, quand ils sont en activité professionnelle, même dans une commune qu'on dit petite, ils trouvent que c'est beaucoup de charges quand on est en activité. Cumuler les deux, c'est pas toujours évident. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, maire, vie professionnelle et aussi vie familiale, parce qu'il y a quand même des réunions, c'est pas toujours...
Au démarrage, j'étais encore en activité. Moi, je dis que la place d'un maire, l'idéal, c'est d'être jeune retraité.
Un jeune retraité, oui. Oui, c'est peut-être vrai d'ailleurs, parce qu'il est jeune et puis il a beaucoup de disponibilité.
Voilà, c'est ça.
Une question qu'on pose à chaque fois, et qu'on posera cette année, on verra bien pour la suite. Êtes-vous un maire heureux finalement, malgré la charge de travail, malgré les responsabilités? Est-ce que Daniel Collas, à la LOB, c'est un maire heureux?
C'est pas forcément à moi d'être heureux. C'est aux habitants de se trouver bien dans notre commune. Et de participer aux différentes manifestations.
Ça, c'est vrai. Ça, c'est une réponse qui correspond un peu à l'engagement que vous nous avez décrit d'entrée de jeu. On est venu vous chercher dans un esprit de service. Et même, vous avez ajouté, sur notre antenne, ce n'est pas pour nous déplaire, en tant que baptisé et en tant que catholique, vous dites, c'est à nous de nous mettre au service des personnes. Écoutez, on ne peut qu'applaudir les deux mains, et je pense que les auditrices et les auditeurs de RCF le feront aussi. On vous remercie, Daniel Collas, d'avoir été avec nous. Au revoir.
Et au revoir.
Et merci à vous également, Jean-Pierre. On vous retrouvera demain dans le magazine régional, notamment avec Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort. 18h30, c'est l'heure du journal ce jeudi sur RCF. Les titres de ce 23 novembre 2023, un mois après le Rassemblement national Kérigma à Lourdes, le diocèse de Chalon a proposé une journée diocésaine afin de revenir sur la démarche et la partager aux diocésains. Découverte, portrait de Marie-Claire Ruiz, médiatrice de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur au sein de l'Académie de Reims, une fonction peu connue mais utile au bon fonctionnement.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
La conférence des évêques de France a lancé en 2022 la démarche Kérigma, un processus d'évangélisation lancé à l'invitation du pape François à fonder toute activité d'évangélisation sur le Kérigme. Elle vise à mettre en lumière la nécessité d'une annonce kérigmatique dans toutes les pastorales, car toutes sont au service de la nouvelle évangélisation. Un mois après le Rassemblement national Kérigma à Lourdes, le diocèse de Chalon a proposé mardi un rassemblement plus local. Christopher Fausten.
Oui Alexis, on peut même dire une journée diocésaine afin de réfléchir et de partager entre autres sur ces différentes questions. Qu'est-ce que le kérigme? D'où vient ce mot? Qu'en tirer de neuf et de concret pour les pastorales? Une journée essentielle pour Sylvie Ferrand, adjointe au doyen de l'espace missionnaire du Vignoble qui a participé au Rassemblement national.
Je pense que c'était important d'abord de se retrouver ensemble, d'élargir à d'autres qui n'y étaient pas et puis de se dire qu'est-ce qu'on en fait maintenant de tout ce qu'on a entendu partager là-bas, qu'est-ce qu'on va rapporter dans nos espaces missionnaires, comment on va le mettre en place et comment ça va se passer, comment on va le faire rayonner autour de nous.
Cette journée de formation s'adressait aux prêtres et à leurs équipes d'animation pastorale, aux fidèles engagés, motivés par le sujet, aux écoles catholiques, scoutistes, mouvements d'action catholique et associations de fidèles. Une journée enrichissante pour Lucie Kiema et Yannick Cossier qui ont participé à cette journée diocésaine à l'Épine.
Kérigma, pour tout dire, donc, c'est le cœur de la foi et j'ai trouvé que cette journée était extraordinaire. Nous avons fait quelques échanges vraiment très agréables, très intéressants et je pense qu'il nous revient vraiment de partager la parole de Dieu et nous devons nous engager beaucoup dans cette voie-là. Je pense que c'est nécessaire, c'est tellement enrichissant. Nous n'avons pas le droit de garder ça pour nous, il faut partager absolument.
On doit, dans nos interventions, dans nos actions au niveau de l'Église, on doit vraiment annoncer l'infinie miséricorde de Dieu, se recentrer sur le message du Christ qui est vraiment venu pour nous sauver. J'aime bien le résumé, le kérigme du pape François. Dieu t'aime, il est venu pour te sauver, il te fait confiance, il t'accompagne chaque jour dans ta vie. Oui, la croix peut être présente, mais même au milieu de tes galères, il est avec toi.
Les participants de Kérigma sont désormais invités à témoigner dans leur paroisse, mouvement ou service.
Merci Christopher. À noter que cette journée diocésaine était en présence du père Christophe Sperissen, membre de l'équipe du service national de la catéchèse et du catéchuménat. Nos confrères de l'Ardennais ont révélé aujourd'hui le décès de François Urano, fondateur de l'entreprise ardennaise Urano et père de Pascal Urano, ex-président du club sportif Sedan-Ardennes, à l'âge de 92 ans. Les obsèques de François Urano seront célébrées mardi prochain à 9h30 en l'église Saint-Rémy de Charleville-Mézières. Fonction peu connue dans les couloirs des rectorats de France, celle de médiateur académique. Le réseau, qui existe depuis le début des années 90, se multiplie progressivement. Une mission réservée aux retraités de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, qui connaissent bien les rouages administratifs, indemnisés 435 € par mois. En France, on en compte 87, dont deux médiatrices dans l'Académie de Reims. Marie-Claire Ruiz a été nommée par le ministre Jean-Michel Blanquer en janvier 2018. Elle nous précise ses fonctions.
Il faut éviter de rompre le dialogue entre l'administration, alors pour utiliser le vocabulaire un peu administratif, les usagers et les personnels. Les usagers, les élèves, les familles, les parents d'élèves, les étudiants du supérieur et les personnels administratifs ou personnels enseignants. Pour toute l'académie, c'est un travail qui concerne des cas qui ont déjà été présentés en recours. Il y a déjà eu un recours auprès de l'administration et ce recours n'a pas réussi et donc c'est à nous de retisser des liens, de relancer l'étude d'un dossier qui nous semble pouvoir être résolu autrement.
Les cas sont divers, contestation de notes, dossiers de bourse refusés, etc. La crise du Covid n'a rien arrangé et les réclamations ont explosé. On est passé de 120 cas recensés en 2018 à 250 en 2023.
Dans la majorité des cas, on arrive à résoudre le problème en moins d'un mois pour ces questions matérielles. Parfois, c'est beaucoup, beaucoup plus long pour tout ce qui concerne la gestion des personnels, que ce soit administratif ou enseignant. Souvent, ces dossiers relèvent de situations qui se sont enquistées. Du coup, c'est très, très long à démêler. Mais parfois, on y arrive avec de la persévérance.
Marie-Claire Ruiz au micro de RCF France-Ardennes, le taux de résolution est d'environ 85%. Sport, basket, les Flammes Carolo ont été battues à la maison lors du cinquième match de poule d'Eurocoupe féminine hier soir par les Espagnols de Cadillacéu, 74-70. Malgré cette contre-performance, les Ardennaises restent deuxièmes de leur groupe alors qu'elles joueront un match décisif contre les Tchèques de Brno, troisième la semaine prochaine. En fin de journal, on retrouve la météo ce soir avec notre stagiaire à la rédaction, Mathéo. Bonsoir Mathéo, tu connais la question, quel temps dans le ciel en Champagne-Ardenne pour ce vendredi ?
Pour ce vendredi dans les Ardennes, attendez-vous à un beau soleil du matin jusqu'au soir. Le matin à Rethel, la température sera de 9 degrés, l'après-midi elle sera de 6 degrés à Charleville et Sedan. Le temps dans la Marne sera similaire avec un beau soleil. Le matin il y aura 10 degrés à Reims. L'après-midi, il fera 8 degrés à Vitry-le-François, Épernay et Chalon en Champagne. Dans l'aube, préparez-vous à de la pluie le matin qui partira à midi pour laisser place au soleil. Le matin à 3, les thermomètres afficheront 6 degrés et l'après-midi, il fera 9 degrés à Remy-sur-Seine. En Haute-Marne, il y aura de la pluie en matinée qui s'arrêtera à partir de midi avec 7 degrés à Langres. Pour finir, il fera à Saint-Dizier et Chaumont 8 degrés l'après-midi. Prévoyez des habits chauds, demain nous fêterons les Floras.
Merci Mathéo et on se joint à toi pour souhaiter une très bonne fête à toutes les Floras. On vous retrouve demain pour d'autres tendances et nous on continue ce magazine régional avec une deuxième partie d'émission tout à fait exceptionnelle. Comme promis, vous allez retrouver Monseigneur François Touvet, évêque coadjuteur du diocèse de Fréjus-Toulon.
Le 18-19,
tous les jours,
sur RCF,
à Reims,
Chalon, Charleville-Mézières.
Chers amis, bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro du 18-19 avec Monseigneur François Touvet en duplex depuis le studio de RCF Méditerranée. Monseigneur, bonjour.
Bonjour Loïc et bonjour à tous.
Dans cette émission, on peut le dire spéciale, je serai accompagné de Christopher Fausten, journaliste à RCF Cœur de Champagne. Bonjour Christopher.
Bonjour Loïc, bonjour Monseigneur.
Bonjour Christopher.
Ce mardi 21 novembre, le pape François vous nomme officiellement évêque coadjuteur du diocèse de Fréjus-Toulon. Un diocèse en difficulté depuis plusieurs mois, mais nous y reviendrons dans un court instant. Dans un premier temps, Monseigneur, pouvez-vous nous dire depuis quand avez-vous appris cette nomination et comment cela s'est passé ?
Alors à vrai dire, des bruits couraient déjà depuis quelques semaines ou quelques mois, et la presse s'en était fait l'écho au cours de l'été. J'ai été contacté moi-même par le nonce apostolique le 7 octobre dernier, et je l'ai rencontré le 8 à l'Annonciature à Paris. C'est là qu'il m'a fait part de la décision du pape pour le diocèse de Toulon, et donc en me demandant si j'acceptais de devenir l'évêque coadjuteur du diocèse de Fréjus-Toulon. Alors, c'est au cours d'un entretien très, très cordial avec le nonce apostolique, et bien sûr, comme j'étais un petit peu averti depuis quelque temps, la question m'avait été posée, et bien nous avons pu discuter paisiblement et j'ai pu donner ma réponse de façon très libre.
Monseigneur, vous avez été nommé évêque coadjuteur, je cite bien, du diocèse de Fréjus-Toulon avec des pouvoirs spéciaux. De façon générale, que signifie exactement cette mission d'évêque coadjuteur ?
Alors, un évêque coadjuteur, c'est celui qui est envoyé auprès d'un évêque diocésain qui arrive ou qui approche de la fin de son mandat. L'évêque diocésain, parce qu'il a atteint un certain âge ou parce qu'il est très fatigué ou malade, souhaite assurer une succession paisible et anticipée. Donc il demande au pape de lui envoyer un évêque coadjuteur, c'est-à-dire un évêque qui va être auprès de lui et qui prendra automatiquement la succession au moment où l'évêque diocésain renonce à sa charge. Alors là, nous sommes dans une configuration un petit peu particulière. Certes, l'idée avait été émise, y compris par Mgr Rey pendant la visite apostolique, qu'un évêque lui soit adjoint. Mais là, je suis donc envoyé par le pape comme évêque coadjuteur pour travailler auprès de Monseigneur Rey, mais avec des pouvoirs spéciaux qui couvrent un certain nombre de domaines importants dans la vie du diocèse. Donc je succéderai à Monseigneur Rey lorsque celui-ci renoncera à sa charge, mais je ne sais pas quand cela interviendra. Monseigneur Rey a 71 ans, alors cela peut durer quelques semaines, quelques mois ou 4 ans.
Monseigneur Touvé, lors de votre conférence de presse mardi dernier, vous avez dit « je ne suis pas là pour le chasser ». Comment va s'organiser cette cohabitation inédite ?
Alors oui, bien sûr, vous l'avez compris, dans l'Église, on n'est pas là. Moi, je n'arrive pas pour prendre sa place. Je suis envoyé par l'Église pour travailler auprès de lui, parce qu'il y a un certain nombre de défaillances ou de dysfonctionnements qui sont apparus dans la vie du diocèse de Fréjus-Toulon. Et c'est là que le pape me confie des pouvoirs spéciaux. Donc cette cohabitation, cette collaboration, elle est inédite, vous l'avez dit Loïc, hein, c'est vraiment le mot juste, ça fait deux évêques dans le même diocèse en fait. Mais nous nous sommes entendus, nous avons beaucoup discuté et nous allons nous engager à communiquer l'un avec l'autre, d'abord en respectant le cadre qui est défini par le pape, les responsabilités de chacun, et en même temps en échangeant, en essayant de travailler ensemble. Nous avons déjà convenu aussi de prendre prochainement un petit temps de récollection, tous les deux ensemble, dans un lieu, peut-être à la Sainte-Baume, voyez, dans des lieux formidables du Var, un sanctuaire magnifique. Nous allons enraciner cela, bien sûr, dans notre fraternité épiscopale, même si nous ne sommes pas de la même génération, nous n'avons pas la même histoire, la même formation, le même tempérament non plus, les mêmes qualités, les mêmes défauts. Bon, mais nous allons travailler ensemble pour le bien du diocèse de Fréjus-Toulon. C'est ça qui nous intéresse, c'est ça que nous avons partagé. Et puis l'annonce de l'Évangile, faire connaître Jésus avant d'administrer ou de régler les problèmes, c'est d'abord ce qui habite le cœur d'un évêque et donc des deux évêques.
Monseigneur François Touvé en duplex depuis le studio RCF Méditerranée dans cette émission spéciale. Monseigneur, est-ce que cette nomination impacte votre rôle de président du Conseil pour la communication à la Conférence des évêques de France ?
Non. Je reste président du Conseil pour la communication, je reste, et dans ce cadre-là, je poursuis le travail que j'ai engagé en pilotant un groupe de travail sur les radios chrétiennes. Nous aurons des assises des radios chrétiennes, d'ailleurs, pour tous les responsables au mois de janvier à Paris. Je dirais le seul impact, c'est que je vais prendre plus de temps pour aller à Paris et pour en revenir. Il y a le TGV direct, mais enfin, c'est quand même plus long que depuis Chalon. Donc, je vais m'organiser autrement. Mais je poursuis ma mission jusqu'au moins au 30 juin, puisque mon mandat de 3 ans comme président du Conseil pour la communication s'achèvera. Et puis qu'on est dans un processus de réforme de la Conférence des évêques. Donc, tout cela risque de changer. Mais je poursuis cette mission au sein de la Conférence des évêques de France.
Et vous quittez donc le diocèse de Chalon pour partir dans, je cite, une autre dimension. Comment décrivez-vous votre nouveau diocèse par rapport à l'actuel, on peut dire ?
Oui, alors il faut partir. Partir, c'est un arrachement. Je ne vais pas m'étendre sur toutes les émotions qui m'habitent, mais elles sont là. Elles sont là et c'est toujours difficile de s'arracher. Je sais ce que c'est que de larguer les amarres lorsqu'on part en bateau, lorsqu'on appareille pour quitter le port. Et je verrai bientôt cela pour les bateaux dans la rade de Toulon. Mais comment je décrirais le diocèse de Fréjus-Toulon ? Il faut que j'apprenne à le connaître. Ce que j'en vois, c'est que la population est très importante. Il y a 1 200 000 habitants, dont 80% sont sur la côte. Avec toute une partie au nord du Var qui est beaucoup plus dépeuplée et un peu plus déserte, même si les paysages sont magnifiques. Je vois qu'il y a un clergé très nombreux, environ 250 prêtres qui sont de provenance très diverse, des Français, beaucoup de prêtres venus de l'étranger, beaucoup de prêtres dans des communautés nouvelles, des petites communautés locales, donc et un clergé assez jeune en majorité. Je vois aussi que le nombre de communes est bien inférieur à celui des communes de la Marne. Dans la Marne, dans le diocèse de Chalon, 450 communes, et là dans le Var, c'est 150. Donc il y a des prêtres un peu dans toutes les paroisses. Il n'y a pas de grandes paroisses avec des regroupements de villages comme nous avons. Donc je vais devoir aussi accentuer la collaboration avec les fidèles laïcs. Je vais donc essayer de suivre tous les cas, les dossiers particuliers des personnes ou des communautés. Donc c'est un diocèse qui a un grand potentiel, beaucoup de monde, beaucoup de gens engagés, une dynamique d'évangélisation et de mission qui est affirmée avec des plans missionnaires dans les paroisses. Après, ben, il faut voir comment ça se traduit sur le terrain et comment accompagner cela. Mais je retrouve un peu cette veine, vous voyez, cette veine de l'évangélisation. Monseigneur Ray est habité par cela depuis des années. Donc là, nous nous retrouvons bien. Après, c'est dans la mise en œuvre, etc. On verra comment ça va se mettre en place. Donc, et oui, puis alors il y a le séminaire. Il y a quand même la formation des séminaristes. C'est très important ici. Il y a donc le séminaire de la Castille. Là où je vais résider d'ailleurs, un très beau domaine viticole de 160 hectares. Et donc il y a une soixantaine de séminaristes pour le diocèse qui sont en formation là, plus un autre séminaire à Toulon du néo-catéchuménat avec une dizaine de séminaristes. Donc là c'est une toute autre dimension pour moi d'accompagner ce processus de formation d'éveil des vocations.
Monseigneur François Touvé, revenons à votre départ du diocèse de Châlons. Alors vous le disiez à quelques instants, c'est un arrachement pour vous. Malgré tout, comment préparez-vous votre départ qui se fait assez rapidement, on peut le dire?
Oui, il se fait rapidement pour deux raisons, si je puis dire, et l'expliquer à nos auditeurs en Champagne. D'abord parce que nous espérions que la nomination puisse être publiée bien plus tôt qu'elle ne l'a été, avec peut-être 10 ou 15 jours d'anticipation, mais ça suit tout un parcours très complexe entre l'annonciature, enfin le Saint-Siège et le gouvernement français. C'est ainsi. Donc les dates étaient prises, si vous voulez, parce que l'Église me demande de rejoindre le Var sans tarder. Parce que justement, il y a cette situation que nous avons décrite et que je suis attendu pour exercer cette mission de coadjuteur avec tout l'apaisement à donner. Donc les dates étaient prises et il me faut dire au revoir et merci surtout au diocèse de Châlons, à tous mes amis, tous mes frères et sœurs dans le diocèse, tous ceux avec qui j'ai travaillé, tous ceux que j'ai rencontrés, tous ceux que j'ai accompagnés vers le baptême, vers la confirmation. Enfin, j'ai vécu des choses absolument formidables. Il y a eu aussi des croix, des épreuves très lourdes sur lesquelles j'ai pas trop envie de revenir, mais elles sont là. Voilà, tout ça, ça a été vécu, donc il faut que nous portions ça devant le Seigneur, dans l'Eucharistie. Ça sera donc le dimanche 3 décembre à la cathédrale à 16h, où j'invite vraiment tout le monde à nous rejoindre pour une belle célébration et que nous puissions chanter Dieu pour ses merveilles, lui demander pardon et puis nous laisser guider par sa parole. Voilà. Et donc après, ben, c'est le déménagement qui intervient dans les tout premiers jours de décembre. Le déménagement très matériel, hein, et pour que je puisse m'installer dans la première semaine de décembre et être accueilli à Toulon le 10.
Monseigneur Touvé, on parlait il y a quelques instants voilà, de cette nouvelle mission en tant qu'évêque coadjuteur de ce diocèse, Fréjus Toulon. On parle souvent, on entend souvent ce mot sauveteur, être sauveteur pour ce diocèse. On sait que, en parlèle de votre mission d'évêque de Châlons depuis 8 ans, on peut le dire maintenant, vous avez été aussi à la gestion de la dissolution de la communauté du Verbe de vie. Comment apercevez-vous ce terme sauveteur pour vous dans cette nouvelle mission?
Je ne l'emploierai pas. Je ne suis pas le pompier de service, je ne suis pas le messie non plus. Je suis un serviteur, je vais apporter toute ma personnalité, mon expérience pour aider le diocèse de Fréjus-Toulon à sortir d'une période difficile avec beaucoup d'incompréhension, d'interrogation, de tension, quelquefois de fracture ou de division. Bien. Je vais le faire auprès de l'évêque diocésain, Monseigneur Ray. Mais sauveteur, non. Je viens vraiment humblement comme un frère évêque. Je viens en serviteur. C'est vrai que mon expérience au Verbe de vie m'a beaucoup marqué. Peut-être que c'est ça aussi qui a fait que j'ai été repéré ou comme je l'ai dit, dénoncé par les frères évêques. Mais je vois que l'Église me confie cette mission un peu comme au Verbe de vie, c'est-à-dire après une visite canonique pour le Verbe de vie, une visite apostolique pour le diocèse de Fréjus-Toulon, il y a des décisions qui sont prises, il y a des conclusions qui sont données, et je suis envoyé pour les mettre en œuvre. Voilà, donc peut-être que le Seigneur m'a donné cette aptitude, cette capacité à venir dans un esprit de dialogue, de bonté, d'écoute, de bienveillance, travailler à à redresser, à ajuster ce qui le nécessite, ce qui le mérite, et le faire avec... avec à la fois enfin la vérité, l'autorité nécessaire, fermeté, puis surtout le courage, et puis le fait d'assumer les décisions. Une fois qu'on a pris des décisions, même si ça fait un peu mal, eh bien, il faut ensuite les assumer, il faut accompagner la mise en œuvre de ces décisions. Voilà, donc j'ai changé de devise à cette occasion. Vous savez que j'avais comme devise épiscopale « omnibus omnia », c'est-à-dire « je me suis fait tout à tous ». Je voulais, c'était en reprenant les mots de saint Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, oui. Chapitre 9, verset 22. J'avais repris cela parce que ça me touchait beaucoup de me dire je dois être entièrement donné à tout le monde, sans faire de distinction, de discrimination, sans faire de privilège ou je ne sais quoi. Et là, je garde ça gravé dans mon cœur parce que c'est une très belle devise, mais j'ai choisi d'en prendre une autre. Pour m'adapter davantage au contexte local du diocèse de Fréjus-Toulon. Donc c'est le psaume 84, verset 11. C'est le verset suivant. Amour et vérité se rencontrent. Voilà. Misericordia et veritas. Donc à la fois la miséricorde, la bonté de Dieu, dont je dois être le témoin, et en même temps la vérité, parce qu'il faut prendre les questions, les dossiers, les situations avec objectivité et y porter remède. Quoi.
Monsieur Touvé, vous disiez dire merci à vos frères et sœurs. Je vous propose de faire un peu un bilan de vos 8 années passées au sein du diocèse de Chalon. Quelles sont vos belles œuvres ?
Alors c'est difficile pour moi de le dire. Je préférais que ce soit d'autres qui me disent, bah, écoutez, voilà tout ce qu'on a pu faire de beau. J'ai essayé, j'ai fait de mon mieux. On m'avait demandé, l'administrateur diocésain de l'époque, le jour de mon ordination épiscopale, c'était le père Joël Morlet. Il avait dit que j'étais attendu dans le diocèse pour un renouveau missionnaire. Ah ben voilà, je m'y suis employé du mieux que j'ai pu, en m'inscrivant d'ailleurs dans la dynamique demandée par le pape François, qui dans la joie de l'évangile en 2013 demandait que toutes les communautés, toutes les paroisses, les diocèses, les familles, les écoles, tout le monde engage un processus de conversion pastorale et missionnaire. Donc il y a le projet Prophète de l'Espérance, suite à tout un processus que nous avions engagé pour dialoguer, pour écouter, pour recueillir des questions, des pistes. Et puis ce projet, il faut le mettre en œuvre. Voilà, je crois que c'est principalement ce que j'ai voulu essayer de faire. Alors il y a des réalisations, on peut se réjouir de l'arrivée des sœurs bénédictines de Montmartre au sanctuaire de l'Épine il y a 2 ans. Je crois qu'on a réussi à mettre en place des équipes de prêtres dans les espaces missionnaires, pour la plupart sur le même modèle. Ils sont regroupés dans un logement, sous le même toit, mais chacun ayant son appartement. Puis à eux de partager la vie de prière, la vie fraternelle, et puis le ministère dans des grands espaces qui regroupent jusqu'à 121 villages, pour l'espace missionnaire de l'Abri. Voilà, j'ai été heureux d'accompagner les équipes de conduite des paroisses, et on est en train d'ailleurs de remettre à jour le texte de référence pour ces équipes paroissiales. Et puis tout l'accompagnement des jeunes, la pastorale des jeunes. J'ai la joie d'avoir 2 séminaristes, 2 jeunes hommes qui se préparent à devenir prêtres. Donc voilà, il y a toute une dynamique d'ensemble qui, je crois, est là au service de la mission dans le diocèse. Encore une fois, tout n'a pas été réussi. Je suis conscient de mes échecs, je suis conscient de mes lacunes. Il y a des choses qui me sont encore lourdes dans le fond du cœur, parce qu'il y a pu avoir des incompréhensions avec tel ou tel, que ce soit de ma faute ou de la faute de l'autre, parce que bon, il faut regarder les choses avec objectivité. Mais ça, ça fait partie de la croix que peut porter l'évêque. Mais en tout cas, vraiment, je veux dire cette attention que j'ai voulu porter à la dynamique missionnaire, et puis en même temps à la représentation de l'Église dans la société civile. J'ai été très attaché à cela aussi, dans la rencontre avec les autorités, la présence à des événements de la ville de Chalon ou du département. J'ai beaucoup accompagné l'enseignement catholique au nom des deux évêques, d'ailleurs de Reims et de Chalon. C'est moi qui étais le délégué pour accompagner toute la direction interdiocésaine de l'enseignement catholique. Voilà, je suis heureux qu'on ait pu mettre en place quelque chose pour l'accueil des migrants, le Bon Samaritain depuis plusieurs années, pour accueillir des personnes ou des familles de migrants qui attendent leurs papiers. Enfin, il y a beaucoup de choses à dire. Et puis l'accent mis sur la liturgie aussi, tout le monde a pu repérer que j'ai à cœur que les liturgies soient belles, soient dignes, soient solennelles, parce que c'est pas notre petite affaire comme ça, mais c'est la célébration du mystère de la mort et de la résurrection de Jésus. Et donc c'est le culte que nous rendons à Dieu, et nous voulons chanter sa louange. Et donc c'est très beau de voir une action liturgique qui est belle et digne, et qui nourrit la prière, qui nourrit le cœur de chacun. Voilà, je pourrais peut-être dire encore beaucoup de choses, mais...
La liste est très très longue, et j'ai envie de vous faire un petit clin d'œil, et je pense vous faire sourire depuis RCF Méditerranée, Monseigneur. C'est bien sûr parmi tout ce que vous avez pu mettre en place au sein du diocèse, un cas exceptionnel pendant ce temps de Covid, c'était cette messe en voiture.
Ah oui, ça c'est sûr. Ouais. Alors à Toulon, je ferai la messe sur la piste d'envol du porte-avions peut-être.
Eh ben, on vous relève le défi.
C'est vrai que c'était un bel événement. Ça reste un magnifique souvenir dans mon cœur. On avait été astucieux à ce moment-là. C'est pas moi tout seul, c'était avec mes collaborateurs de l'époque. Mais on avait été astucieux et on avait été heureux de le faire, et on avait rendu les gens heureux. Hein, après ces semaines d'enfermement chez nous. De se retrouver comme ça, même si chacun était dans sa voiture. Mais je me souviens de la joie qui était exprimée ce jour-là. On a fait ça deux dimanches de suite.
Tout à fait.
300 voitures, puis 400 voitures le dimanche suivant. Les gens, ils suivaient la messe sur leur radio grâce à RCF, Cœur de Champagne. Enfin, bon, c'était formidable. Oui, on a fait des grandes journées missionnaires aussi. Partageons nos talents, etc. Enfin, oui. Le pèlerinage de l'épine qu'on essaye de développer avec un accent mis sur les familles, sur les jeunes, sur les enfants. Combien de fois je suis aller à pied de Chalon à l'Épine. Hein. Bon, voilà, il y a des choses magnifiques. Enfin, je vais garder ça dans mon cœur. Je vais garder ça. Puis la collaboration avec les prêtres, avec les diacres, les équipes de laïcs. Oh, tout ça, c'est très beau. Je dis merci, mon Dieu. Hein.
Monseigneur, une messe d'action de grâce se tiendra le dimanche 3 décembre à 16h à la cathédrale Saint-Étienne de Chalon en Champagne. En attendant, vous êtes depuis mardi administrateur apostolique. Quelle est la différence ?
Ça, c'est une bonne question. Donc, j'étais évêque de Chalon. Comme je suis maintenant nommé évêque coadjuteur de Fréjus-Toulon, je ne peux pas être deux fois évêque en deux endroits différents. Voilà. Donc, je suis administrateur apostolique. Apostolique, ça veut dire que j'ai reçu l'ordination épiscopale, je fais partie du collège épiscopal, mais maintenant, jusqu'au 10 décembre, je vais administrer le diocèse. C'est-à-dire que je vais simplement gérer les affaires courantes qui sont là, mais sans prendre aucune décision qui engagerait maintenant l'avenir du diocèse de Chalon. Voilà, je suis là. Bien sûr, c'est la période où en même temps, il faut dire adieu, il faut faire le déménagement. Mais c'est sous ma responsabilité encore. Hein, le diocèse de Chalon reste sous ma responsabilité, juste pour les affaires courantes, sans engager l'avenir. Et à partir du 10 décembre, eh bien, il y aura une nouvelle phase. L'administrateur apostolique que je suis ne sera plus là, et il faudra élire un administrateur diocésain.
Donc à partir de ce moment-là, comment va se dérouler justement cette élection, entre guillemets, on peut dire que c'est une élection?
C'est une élection, oui, c'est une élection. Alors il existe dans chaque diocèse, le droit de l'Église prévoit qu'il existe un collège des consulteurs. Ce sont des prêtres du diocèse nommés par l'évêque pour 5 ans. Bon, il se trouve que leur mandat expirait en 2023 et j'ai renouvelé le collège des consulteurs en mai dernier, en 2023. Donc ils sont 7 prêtres et sous la conduite du doyen, donc le plus ancien d'entre eux, ils se réuniront une fois que je serai vraiment parti, une fois que je serai accueilli, installé comme coadjuteur à Toulon le 10 décembre. Ils auront 8 jours pour se réunir, pour discuter entre eux et procéder à une élection. Ils voteront ils éliront un prêtre qui exerce son ministère dans le diocèse. C'est pas forcément un prêtre incardiné au diocèse, ça peut être un prêtre venu de l'extérieur qui exerce sa mission dans le diocèse. Mais ça peut être un prêtre incardiné au diocèse. Il n'y a pas de critère d'âge, voilà. Ils vont donc élire un prêtre qui sera administrateur diocésain s'il accepte cette charge, c'est-à-dire qu'il va diriger le diocèse, gouverner le diocèse, gérer les affaires courantes, sans prendre de grandes décisions qui engagent l'avenir, et il devra tout faire pour préparer l'arrivée d'un futur évêque à Chalon. Mais il participera à ce titre aux travaux de la Conférence des évêques de France pendant tout son mandat d'administrateur diocésain. Voilà, j'espère que je suis clair.
Très clair.
Un peu compliqué.
Très clair, Monseigneur. Monseigneur François Touvet, permettez-moi au nom de toute l'équipe de RCF de vous remercier pour ces années passées en Champagne, de votre disponibilité pour RCF, de votre présence et votre écoute attentive. On vous souhaite bien sûr une très belle réussite dans votre nouveau ministère sous le signe de la foi et de l'espérance, comme vous venez de le dire il y a quelques instants. Merci Monseigneur.
Merci Christopher, merci Loïc, merci à tous nos fidèles auditeurs sur RCF. Et je vous dis à très bientôt pour cette messe du 3 décembre à la cathédrale de Chalon.
Et Jean-Pierre Benoît avait raison, il y avait bien Éloïc et Christopher pour mener cet entretien. Monseigneur Touvet, que l'on retrouvera une ultime fois jeudi prochain en direct depuis le locaux de RCF Cœur de Champagne. Très bonne soirée, à demain à 18h10.